l'ancien élève de l'école polytechnique qui a fait son master à l'UNESI, qui est docteur de l'école des études en sciences sociales. Il a travaillé 8 ans au CERA, c'est le centre de recherche économique de l'école des ponts et des chaussées. Il a travaillé 10 ans au service de la recherche du Fonds monétaire international, maintenant il est universitaire à Franklin. Beaucoup d'entre vous ont lu certains de ses travaux. Il a notamment beaucoup écrit sur financements internationaux, sur l'architecture financière internationale, sur la politique monétaire, sur les crises de financement, sur les mouvements de prix d'actifs. Et donc, très naturellement, quand le comité directeur de l'AFCE s'est posé la question d'inviter un conférencier cette année et qu'il a souhaité choisir un chercheur qui avait travaillé à la frontière de la finance, de la macroéconomie et qui était capable de traiter des situations de crise, c'est tout à fait normalement que l'idée nous est venue d'inviter Olivier Jeanne, à qui je donne la parole.
Sauter ce transport parce que j'en ai trop. Et présenter, résumer la littérature qui existe, et qui est sur la travailabilité, et qui est inspirée, bien sûr, par la situation du Japon. Parce que ça sera utile pour présenter ensuite mon extension de cette littérature, qui regarde la même question d'un point de vue plus global en économie mondiale fermée, plutôt d'un seul. J'essaierai de convaincre que ce concept de travailabilité globale a compris dans le sens suivant, dans le sens que dans une économie mondiale où plusieurs pays sont d'une travailabilité, on ne peut pas penser ces situations de manière correcte simplement comme une juste position de pays qui se trouveraient par hasard en même temps d'une travailabilité. En fait, il y a des externalités, des interactions entre les pays qui sont à la fois dans l'entrée dans la travailabilité, dans la sortie, qui sont essentielles pour penser correctement la question. Et c'est en ce sens que ce concept, je pense, effectivement, le concept est intéressant et a du contenu. Et puis, à la fin, j'essaierai de tirer des leçons, des implications. Je parlerai premièrement de la transmutation et ensuite de la crise actuelle. Tout d'abord, un petit résumé de la littérature sur la travailabilité. Inspiré par le Japon. Comme c'est souvent le cas, l'essentiel a été dit très tôt par l'article publié dans le groupe Space Girl Community en 98. Et il a vraiment débuté, commencé cette littérature, ensuite il y a un certain nombre de papiers qui ont apporté rapidement des précisions aussi des combats, un peu comme le plus fort, des idées essentielles étaient presque toutes dans les papiers originales de l'autre. Le cadre, dans la mode moderne, le cadre, c'est l'équilibre. La théorie, c'est l'équilibre général, dynamique, légitimidable. Et un point de référence important pour la politique monétaire dans ce type de modèle, c'est le taux d'intérêt réel naturel, au sens de Piksent, terminologie qui a été essentiellement le taux d'intérêt réel de Fedenko. Alors, mon petit résumé, pour tout bien, dans ce genre de modèle, l'équation de l'air que j'ai écrite ici avec les notations habituelles, prime de CT égale l'état par plus R, plus R, plus R, où C est le taux de consommation. Et simplement, avec ces équations, on peut traduire un taux de croissance de consommation en un taux d'intérêt réel. Par exemple, si on souffre la version risque constante, 1 plus R et 1 plus G, la puissance 1 sur gamma de θ, ou gamma est le taux d'élasticité de substitution immédiate temporelle de la consommation. Donc, si gamma est égal à 1,5, qui est assez typique, la version risque de 2, à ce moment-là, 1% de moins de croissance potentielle pour la consommation et la consommation de l'emploi implique 2% de moins dans le taux d'intérêt réel naturel. Et donc, ce n'est pas très difficile, en jouant avec cette équation, d'obtenir des taux d'intérêt réel naturel négatifs. Si le croissance chute de 2%, moins 2%, par exemple, le taux d'intérêt chutera de 4 à moins 4. Donc, c'était l'idée essentielle de Krugman. Krugman pensait qu'au Japon, le taux d'intérêt réel naturel était négatif. Il parlait d'une situation dans laquelle les gens avaient des anticipations sur leur revenu futur qui étaient pessimiste pour que même à un taux d'intérêt réel égal à zéro, l'offre d'épargne excédait la demande, donc le taux d'intérêt réel baisse encore plus. Je voudrais illustrer ça de manière un petit peu plus quantitative. Donc là, j'imagine un modèle dans lequel qui est le plus simple qu'on puisse utiliser. Donc, il n'y a pas d'investissement, il y a un output, un GDP exogène. La consommation est égale à la production. Donc, on est dans une notation avec un arbre, des fruits et un taux de croissance. Et considérant une crise dans laquelle le taux de croissance va chuter de 2,5%, qui est le taux de croissance de long terme, à d'abord 1, puis moins 2, puis ensuite le taux de croissance. Donc, simplement en utilisant l'équation que je vous ai montrée, je peux traduire cette hypothèse bien négatif baisse à moins 2, ensuite le commun péret à 2 ans est à moins 5, et ensuite remonte. Mais vous observez que même avec ce choc, il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est pas en dehors de ce qu'on observait, ce qu'on observe maintenant. On a une courbe de taux réel naturel qui est négative jusqu'à 10 ans. Et si vous regardez la courbe de taux aux périodes suivantes, et il faut attendre jusqu'à la période 5 ou 6 pour revenir dans la région de taux d'intérêt réel naturel est positif. Donc, l'impact peut être relativement important, il peut être relativement plus large, pas à 10 ans, 15 ans, mais quelque chose comme 5 ans. Bon. Là, je vous ai présenté le modèle sans entité nominale. Bon, par définition, le taux d'intérêt réel est le taux d'intérêt réel d'équilibre naturel. Si on introduit des rigidités nominales, il faut tenir compte du fait que le taux d'intérêt nominal doit être négatif, donc le taux d'intérêt naturel RN plus l'inflation anticipée ne peut pas être négatif, il doit être positif. Et donc ça, ça pose une contrainte sur le taux d'intérêt réel d'équilibre. Il ne peut pas être plus bas que moins l'inflation. Et si l'inflation anticipée est trop faible, et à ce moment-là, on peut être aussi sûr que souvent, même quand le taux d'intérêt est égal à 0, la monnaie est en train de se faire. Et on ne peut pas sortir, et ça c'est un point qu'on peut clarifier et qui est toujours compris dans tous les débats, c'est qu'on ne peut pas sortir de la trappe électrique simplement en augmentant la masse monétaire, en faisant une injection monétaire. Ça ne marche que si les injections monétaires, d'une manière ou d'une autre, augmente les anticipations d'inflation, et donc elle est perçue comme suffisamment permanente. Et là, c'est la difficulté de sortir de la crainte de liquidité. C'était la thèse de Kouba à propos du Japon, et c'est maintenant aussi dans les États-Unis. Les banquiers centraux doivent annoncer des stratégies de sortie récemment, permettant à passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi, en fait, il est très facile d'éponger toute cette liquidité à partir du moment où l'inflation augmente. Comprendre d'un certain point de vue, mais en même temps, du point de vue de sortie optimale de la travail, ça doit être entre collectif parce que, essentiellement, on peut augmenter la masse monétaire sans changer les anticipations d'inflation si on annonce qu'on va retirer la masse monétaire dès que l'inflation augmente. Alors, ce diagramme vous montre la perte. L'output potentiel, le régulier potentiel, et la demande, quand le taux d'intérêt réel est contraint par différents taux d'inflation. Donc, quand l'inflation est à moins 2%, 0% ou plus de 2%. Donc, la ligne en bleu, en haut, c'est le niveau du régulier potentiel. Et les autres lignes en dessous représentent la demande. Si on suppose que le taux d'intérêt réel est égal au niveau naturel, quand c'est possible, quand ce n'est pas possible, il est égal à moins l'inflation. C'est-à-dire que le taux nominal est égal à zéro, l'économie est dans une trappe. Donc vous voyez que si l'inflation est à moins 2%, l'économie, avec le choc que je vous ai montré plus tôt, sera dans la trappe d'activité pour une période de 5 ans. Par contre, si l'économie a un taux d'inflation ici de 2%, c'est cette période de trappe d'activité est réduite à 3%. Donc, les résultats sont très sensibles au niveau d'inflation, entre moins 2 et plus de 2. Cette figure vous montre la perte d'output. Donc, l'output gap, c'est les différences entre la ligne du haut et les autres, cumulées en fonction de l'inflation. Donc, si l'inflation anticipée est constante et qu'elle est à moins 2%, dans cette économie, on va perdre 20% d'output. À 2%, on va perdre un peu moins de 10%. Et à 5%, on s'approche de la région où les gains en termes d'output d'augmenter l'inflation sont passés. Donc, c'est une illustration très simple d'une propriété qu'on trouvera en général dans des modèles plus compliqués, qui est que il va y avoir des coûts d'output très importants à laisser baisser l'inflation en dessous de 2%, et il y a des gains assez faibles à augmenter l'inflation au-delà de 5%. résumé de la littérature sur la thérapeutique, donc le permet. Maintenant, je voudrais parler de l'économie nouvelle, de la thérapeutique globale. Donc, il y a quelques modèles qui existent à travailler dans l'économie nouvelle, en particulier l'article de Lars Nilsson. Je vais vous présenter maintenant un résumé d'un article que je suis en train d'écrire, qui présente un modèle à deux pays, un modèle de libre en général, avec marché nominal, économie de dotation, donc il n'y a pas d'investissement, et il y aura une différence importante avec l'économie fermée dont on parlait, qui est qu'il y aura un taux de change et il y aura des mouvements dans le taux de change, en particulier des dépréciations, aussi des dépréciations. Alors, dans cette figure, je vous montre le résultat d'une expérience. Consiste à servir deux pays. Les deux pays ont une taille identique. Et dans l'un des deux pays, je vais introduire un choc analogue à celui que je vous ai montré auparavant, en fait, dans le deuxième pays, il n'y a pas de choc. C'est un choc asymétrique. En économie fermée, on aurait un pays qui irait en train de. En économie ouverte, ce qui est intéressant, c'est que le taux d'intérêt réel naturel tombe dans les deux pays. Il tombe plus dans le pays qui reçoit le choc que dans le pays qui ne reçoit pas. Mais le taux d'intérêt réel naturel est assez proche dans les deux pays. Par contre, le taux de change réel entre les deux pays est relativement peu affecté. Le pays qui reçoit le choc dans un premier temps voit sa monnaie se déprécier en termes réels. Et cet effet relativement petit, il est relativement petit parce que le différentiel de taux, comme je l'ai dit, lui aussi, relativement petit. Il y a un taux qui est dans le modèle, qui fait qu'il y a cet mouvement de taux de change. Alors, c'est un résultat un peu intriguant, je vais expliquer tout à l'heure, et qui apporte une réponse à une question que beaucoup de gens se posent. Quelque chose que j'appellerais le casse-tête de la demande globale. Donc voici une manière d'interpréter ou de raconter la quitte. En deux ans, entre 2007, premier trimestre et 2009, deuxième trimestre, les ménages américains ont perdu 12, près de 13 000 milliards de dollars de richesse. La bourse. Donc c'est un choc de négatif, de richesse extraordinaire. Depuis qu'on a ces données, il n'y a jamais eu une perte de richesse aussi importante en une période de, en termes de revenus disponibles. C'est 164% du revenu disponible des ménages perdus en deux ans. Donc c'est un choc négatif énorme qui va réduire la demande aux États-Unis pour augmenter l'épargne de manière très naturelle pour reconstituer. Un choc de demande négative aux États-Unis. Cette conséquence est a priori désirable et durable. Tout le monde pensait que le taux d'épargne était trop faible aux États-Unis avant la crise. Tout le monde pensait que l'augmentation du taux d'épargne ferait partie de la transition vers un chemin plus soutenable pour l'économie mondiale, moins que l'hyperinflation. On observe, en même temps que la richesse diminue, vous voyez le taux d'épargne des ménages qui augmente à 5%, et le déficit commercial passe de 36% du PIB à moins de 3% du PIB, une période très courte. Donc c'est un ajustement qui est rapide, mais d'un certain point de vue est désirable, et qui est durable aussi. Mais en court terme, ça crée du sous-emploi. La question, c'est d'où va venir la demande globale, la demande qui vient plus des États-Unis, d'où va-t-elle venir? Bon, elle ne doit pas venir des États-Unis, vous savez pas, justement, le processus, bien justement, de dépasser la demande des États-Unis vers le reste du monde, la demande est trop élevée. Et c'est le genre d'histoire. entreprise, on fait des calculs, de, on est au niveau 100 de dollars, ça va se déprécier pour permettre le déplacement de la demande aux États-Unis. Et ce qu'on se rend compte dans la crise, c'est que ces histoires qu'on racontait dans la crise, ces mécanismes, ne marchent pas. Parce que le reste du monde, pourquoi est-ce que le reste du monde commencerait à acheter plus de biens américains? La première chose qui arrive dans le reste du monde, aux pays qui exportent aux États-Unis, c'est que leur propre, la demande pour leurs propres biens se réduit, leur revenu se réduit, donc leur demande se réduit. Est-ce que dans ces situations, ils vont accepter une appréciation de leur monnaie qui va permettre aux États-Unis de vendre plus? Non. D'ailleurs, la Chine, qui permettait à sa monnaie de s'apprécier dans la crise, a stoppé ça depuis un certain temps. Donc, il y a une question qui est, d'où va venir la demande? Ne peut pas venir de l'autre monde, parce que nous sommes dans une impasse, qui est la sortie logique, disons, de cette situation. Un modèle d'équilibre va nous donner la sortie logique, parce que par définition, un modèle, il n'y a pas de sous-entendu. Il va nous dire quelles variables doivent s'ajuster pour résoudre ce casse-tête global. Et dans cette mesure, c'est ce fait le modèle que je vous ai présenté. Ce qu'il dit, ce modèle, c'est que la sortie, justement, passe par des taux d'intérêt réels négatifs qui vont augmenter la demande à la fois aux États-Unis et dans le reste du monde. Et que si vous avez ces taux d'intérêt réels négatifs, vous avez moins besoin d'un mouvement du taux de change pour réallouer la demande. Ça fournit une réponse à ce casse-tête de la demande. Maintenant, je voudrais expliquer un petit peu les interactions et pourquoi un choc dans un pays asymétrique va se propager, une sorte de contagion à la fin de la liquidité du pays d'origine vers le reste du monde. Je vais essayer de faire ça rapidement avec une version réduite et linéarisée du modèle. Et c'est effectivement la version qui est un peu frustrant avec ces modèles de livre en général, avec des pages de l'équation qui, à la fin, on linéarise, on trouve quelque chose d'aussi trivial que ça, qui dit essentiellement que la demande dans le pays domestique décroît avec le taux d'intérêt réel domestique. Bon, parce que le taux d'intérêt domestique a diminué la consommation et aussi apprécié la monnaie, donc il y a deux mécanismes. Et si on augmente le taux d'intérêt réel à l'étranger, et ça, ça va augmenter la demande domestique à cause de l'effet prix, à cause de la dépréciation de la monnaie domestique. Là, il y a deux effets, la demande étrangère diminue, le bien domestique devient plus compétitif, et le deuxième effet, l'eau. Et l'autre résultat, c'est que la politique monétaire est plus puissante chez soi que chez l'autre. Donc A est plus grand que l'autre. A et B sont en fonction des paramètres sous-jacents. Et ce n'est pas très important de regarder ces équations pour comprendre ce qui se passe dans le modèle. Donc si vous acceptez ces deux équations-là, et puis en plus il y a des termes de choc de vent, bon, par exemple un choc de richesse aux États-Unis, on dira un epsilon ici qui est négatif, un choc de vent négatif aux États-Unis. Donc si vous acceptez ces équations, on peut construire un petit cône comme ça, sous un plan. Donc là, la donnée, la ligne Y égale 0, montre les combinaisons de taux d'intérêt réel à l'étranger. Et dans le pays domestique, qui sont cohérents avec le plein emploi dans le pays domestique. Et la star égale 0, c'est la même chose pour le pays étranger. Et les deux lignes se croisent au point O, qui correspond au taux d'intérêt réel naturel, la combinaison des deux, assure le plein emploi dans les deux pays. Et si vous êtes entre les deux lignes, si vous êtes dans ce cône, c'est un cône de sous-emploi dans lequel il y aura sous-emploi à la fois dans le pays domestique et le pays étranger, parce que les taux d'intérêt réels sont pauvres. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un choc de demande négative dans le pays domestique et dans les États-Unis? Ça déplace l'une des droites vers la gauche, et le nouveau point d'équilibre, c'est le point A. Maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter le passage du point O, le point d'équilibre original, au point A? Eh bien, après le choc de demande, le pays domestique va réduire son taux d'intérêt réel pour rétablir le plein emploi chez lui. Et ça va déprécier la monnaie domestique, donc ça va créer du sous-emploi pour le pays étranger. Donc le pays étranger va répondre en dépréciant en réduisant son taux d'intérêt réel, et ainsi de suite, et on converge vers le point A. qu'il y a cette contagion, parce que le pays qui reçoit le choc doit réduire son taux d'intérêt réel, et ça le rend plus compétitif, l'autre pays doit répondre, et donc on converge en situation de plein emploi dans les deux, et où les taux d'intérêt réel naturels se sont réduits dans les deux pays, pas seulement dans le pays à l'origine du choc. Maintenant, dans ce sujet large, je peux ajouter la trappe à difficulté. Je dis simplement que le taux d'intérêt réel doit être supérieur à moins l'inflation dans le pays. Donc ça va ajouter une contrainte. R, le taux d'intérêt réel touristique doit être plus grand que moins pi, moins l'inflation domestique. R star doit être plus grand que moins pi star. Et on peut avoir une configuration comme celle-là, où, à la suite de laquelle le pays domestique va réduire le taux d'intérêt, mais pas autant qu'avant, parce qu'il est un contrat, le pays étranger ensuite va réduire à nouveau son taux d'intérêt réel, et on converge vers le point B. Le point B est à l'intérieur du taux de taux d'emploi, donc on arrive à une situation où il y a un taux d'intérêt nominal qui est à zéro dans les deux pays, et il y a sous-emploi dans les deux pays. Et ceci alors même que l'origine du problème, c'est un choc dans un seul des... Donc ça explique pourquoi on va prendre quand le choc conduisant à une frappe à l'équité frappe une région du monde, une partie du monde qui est suffisamment importante, elle peut entraîner le reste du monde dans la frappe à l'équité. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de la frappe à l'équité? Il n'y a pas beaucoup de différentes solutions dans la réalité. Il faut augmenter le taux d'inflation ainsi, la seule voie simple. Maintenant, si le pays domestique augmente l'inflation anticipée, si on augmente pi ici, ça va déplacer la droite correspondant à la contrainte sur le point de vue final. Ça va permettre au pays domestique d'atteindre le sous-emploi. Et là, il y a un effet beggar thy neighbor. Plus de chômage, plus de sous-emploi dans le pays étranger. Maintenant, le pays étranger peut aussi répondre à la situation en augmentant l'inflation anticipée chez lui. Et comme ça, on va converger vers le point A, on va converger vers le plein emploi dans les deux pays. Alors, là, il y a un effet un peu. Une chose intéressante qui est que. On a tendance à voir les déclarations de policiers comme quelque chose de mauvais à éviter. Tout à la coordination internationale pour éviter les déclarations de policiers. C'est évidemment un peu loin. Et ici, même si ces politiques ont un effet de bigger than ever, en fait, c'est optimal de les avoir dans les deux pays ensemble. Un pays, en faisant du stimulus monétaire, va faire du mal à l'autre pays. Et si les deux pays font du stimulus monétaire, ça fait du bien pour deux pays. Ce n'est pas une situation de dilemme du prisonnier. Et c'est quand même très étonnant, parce que quand on fait du stimulus monétaire dans les deux pays, c'est comme faire du stimulus monétaire dans une économie fermée. Et c'est la chose optimale. Donc il y a une différence importante entre ce type de stimulus monétaire, de sortir de la traçabilité, et la protection tarifaire. Donc si dans le même modèle, je change le jeu, je dis que les deux pays vont jouer l'un contre l'autre en imposant des tarifs sur les importations, bah évidemment on converge vers un équilibre sous-optimal où il n'y a pas plus d'emplois dans les deux pays, mais il y a une distorsion commerciale. Donc là c'est un vrai dilemme de guerre tarifaire conduit à un revers au niveau de plus bas, ça a du sens de pouvoir instaurer un système de coopération internationale pour limiter la guerre tarifaire. Et pas le stimulus sur les terres. C'est fondamentalement différent. Donc on a tort de mettre dans le même sac le background and policy, l'évaluation compétitive et la protection de l'environnement. Il y a un cas intéressant qui est si l'un des deux pays, par exemple les États-Unis, arrive à se libérer de la liquidité, de la traçabilité, et d'autres pays, par exemple la zone euro, ne le fait pas. Et que la zone euro introduit un tarif. Alors on peut montrer qu'en fait, on peut atteindre le plein emploi de cette manière-là, avec stimulus monétaire dans un pays et tarifs Non. C'est pas la pure baisse, parce qu'il y a la distorsion du tarif, mais c'est préférable à l'inaction, c'est-à-dire rester dans l'équilibre pour les deux. Alors, je voudrais utiliser ce modèle, pas de manière littérale, mais pour en inspirer pour quelques réflexions sur la condamnation, c'est pas tout le temps là-dessus, et la crise en cours. Alors, la grande dépression, évidemment, c'est un point de comparaison important avec la crise actuelle. Il y a un papier en préparation très intéressant à être compris pour vous, dans lequel il compare les deux. Et il montre que si on regarde le taux de croissance du PIB mondial, on est sur la même tendance que lors de la grande dépression. La crise est maintenant moins grave aux États-Unis qu'elle ne l'était au début. Et au niveau mondial, on est sur la même courbe. Et on a le taux de premier tiers. Ça s'en poursuit comme ça pour deux ans de plus. Donc, au niveau mondial, on sera sur la même tendance de la grande dépression jusqu'à son fond. Donc, nous avons pensé que ça ne va pas se produire, mais c'est un point de comparaison à l'Est. En tout cas, pareil. Pendant la grande dépression, certains pays ont maintenu la parité, la France, l'Allemagne, avec les fonds d'échange, et d'autres pays qui l'ont abandonné, d'abord l'Angleterre en 1931 et les États-Unis en 1933. Donc des différences très importantes qu'on peut interpréter en termes de modèle comme des pays faisant le stimulus pour sortir de la déflation, de la déflation, et d'autres. Dans 1950, Bretton Woods était basé sur une interprétation populaire de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'il fallait empêcher à tout prix la répétition des compétitions, des évaluations compétitives et protectionnistes, en liant les deux dans la même opprobre. Si on regarde la grande dépression à l'univers du modèle, en fait, on peut penser que l'Angleterre et les États-Unis faisaient ce qu'il fallait faire en quittant le standard et en faisant de leur vocation. Et qu'il n'y aurait pas eu de problème si cette réponse avait été coordonnée et généralisée, si tous les pays avaient fait en même temps. Le problème venait du fait qu'une partie du monde ne le faisait pas, et ne le faisant pas, ayant quelque chose à faire, alors on pouvait interpréter la protection tarifaire comme la réponse de cette peste à la répression dans. Et il y a un papier récent de Adam Green. Donc, cette interprétation de l'entre-deux-guerres est tout à fait cohérente avec une interprétation révisionniste qui a été faite par Adam Green, qui est présentée dans son livre Golden Fables dans les années 90. Il y a un papier récent par Adam Green à Kirby dans lequel il en voit un peu plus loin et il repère le lien entre protectionnisme et maintien de la parité. Donc, si cette interprétation que vous avez proposée, c'est dans les pays qui ne quittaient pas la parité d'or qu'on devrait observer plus de protectionnisme, plus de protection tarifaire. Ça semble assez évident, mais personne n'avait vraiment regardé ça. Ils regardent ça dans leurs interprétations récentes. Il faut qu'effectivement, à part l'Angleterre, il y ait une corrélation très forte entre ne pas sortir du système de champ d'or, maintenir la parité et. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de la crise actuelle. Tout d'abord, en décrivant le statu quo, évidemment, la situation est très différente de la grande dépression, il y a plus de flexibilité, mais il y a aussi des contraintes à la discrétion sous forme de banque centrale indépendante, de banquiers centraux conservateurs ou d'agiles de ciblage. Si on regarde les communiqués du G20, ce qu'ils disent sur l'inflation, le risque inflationniste, la politique monétaire en général, il y a très peu, il y a quelques lignes, c'est nous, gouverneurs, d'éviter la dépression. Ce qui, dans une certaine mesure, est le même objectif qu'avant. Et avant la crise, on ne parlait pas d'éviter la dépression, c'est pas un problème, mais s'il y avait une cible d'inflation de 2%, donc il fallait éviter la dépression. Donc c'est une réaffirmation des objectifs qui existaient auparavant. Et c'est une réaffirmation sans approfondissement de la coopération internationale. Pas vraiment de nouveaux mécanismes de coordination internationale, de coopération internationale, de banque centrale pour lutter contre la dépression, sortir de la si ensuite, on peut apporter le poids du stimulus sur la politique économique. Est-ce que c'est un problème? On peut difficilement être en désaccord avec la réaffirmation de l'objectif d'éviter la dépression. Comme vous l'avez montré, c'est quand on passe de moins plus 2 à moins 2% d'inflation qu'on perd le plus de PIB. En même temps, on aimerait un peu plus de clarté et de cohérence sur comment on évite la dépression. Le quantitative easing, on n'a pas une théorie sur laquelle le quantitative easing va éviter la dépression. Elle va le faire dans la mesure où elle fait des anticipations d'inflation. En même temps, elle ne le fait pas de manière mécanique, parce que le public peut croire que ce quantitative easing est en problème, pas vraiment. Et on a l'impression que chaque banque centrale développe sa propre forme de quantitative easing avec des noms un petit peu différents, mais sans vraiment répondre à cette question centrale qui est quel mécanisme, comment c'est que ça évite la dépression, les anticipations de dépression. Bon. Ensuite, si on prend la théorie un peu littéralement, on peut le faire dans un premier temps en tout cas, pourquoi ne pas aller au-delà de 2%? Voilà. Typiquement, dans un modèle calibré, il y a des bénéfices non négligeables à aller de 2% à 5%. Donc, pas des chiffres fous, il n'y a pas de niveau d'inflation énorme. Et 5%, c'est mieux que 2%. 5% pour 5 ans, par exemple, ce serait mieux que 2%. Donc, si on peut cibler 2% plutôt que moins 2, pourquoi pas, si vraiment c'est faisable, si c'est pas un problème, si on sait le faire, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5. Annoncer 5, ça aurait un autre intérêt qui serait peut-être d'affecter les anticipations, d'influencer les anticipations plus que de dire simplement on va y arriver avec la dépression. Bon, maintenant, il y a des vraies difficultés avec cette idée. Est-ce qu'il est faisable d'augmenter la cible d'inflation sans crédible et sans perdre l'ancrage à long terme? Donc l'idée c'est de dire on fait 5% plus 5 ans, on revient, on ne change pas le taux d'inflation à long terme, on augmente simplement en problème. Est-ce que c'est faisable? Comment est-ce que c'est faisable? Parce qu'il y a des contraintes institutionnelles très importantes, les cibles d'inflation sont déterminées de manière différente selon les pays, la Banque centrale européenne détermine sa propre cible d'inflation. Et ensuite, il y a le dernier problème qui est peut-être le plus important, qui est que si c'est fait dans certains pays et pas dans d'autres, à ce moment-là, ça crée des tentations progressionnistes dans les pays qui ne le font pas. Et dans le modèle que je vous ai montré, l'arif n'est pas une mauvaise chose, c'est une solution assez complexe. Mais c'est parce que l'arif peut être introduit au moment de la sortie de crise et ensuite enlevé. On le met dans le modèle, il y a des raisons politiques, si on introduit un tarif, il peut être difficile de le supprimer plus tard. Vous avez une raison de ne pas vouloir aller dans cette sérieux, c'est valable, de ne pas vouloir aller dans cette direction. Donc pour de bonnes ou de mauvaises raisons, effectivement, je ne peux pas s'attendre parce que les banquiers centraux du monde se donnent la main et annoncent une nouvelle cible d'inflation à 5%. Mais pour conclure, ce que j'essayais la principale thèse de cette présentation, c'était qu'il y a un objet intellectuel, qui est le travail global, qui est un peu différent des analyses que l'on a dans une existence des travailleurs d'un seul pays, parce que ça fait intervenir des externalités entre pays. Et ça implique que quand un pays va avoir la travailleurs, il a tendance à entraîner les autres, si le choix est suffisamment important, et le pays qui est travaillé par le choix est suffisamment grand. Donc on y va ensemble, la tendance est d'aller ensemble. Il y a des raisons de désirer d'en sortir ensemble, qui est ce que je disais à propos du protectionnisme, sorti par certains pays par d'autres, de générer des tensions protectionnistes qui ne sont pas plutôt dans la tête de notre modèle, mais peut-être plus dans le monde. Donc, mon impression, c'est que si on prend cette perspective, le statu quo, qui est essentiellement chaque banque centrale, réaffirmant ses objectifs anciens et en cadre même un régime monétaire international sans mécanisme spécifique de coordination, d'échange ouvert, de débat entre le monde central sur ces questions, et peut-être un peu, ce statu quo d'être un peu court. Hein. Presque un an, j'avais proposé une consultation multilatérale sous l'équipe du FMI sur comment éviter la déflation. Les banques centrales disent qu'elles sont d'accord pour la déflation, donc pourquoi ne pas avoir un débat ouvert et engageant, peut-être pas seulement les banques centrales, justement, on évite la déflation. C'est une proposition assez modeste bureaucratique. Il y avait eu une consultation multilatérale par le FMI auparavant, quelques années, comment réduire l'euro. Donc c'est assez modeste, ce serait un exemple de dans la bonne direction. Voilà, en fait je pensais avoir trop de transparent, donc je m'arrête.
Je pense qu'on peut discuter la présentation d'Olivier Jeanne pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Qui souhaite poser une question? Henri?
Généralement, dans le manuel, on présente l'activité, la budget, et puis ensuite on dit que dans ces cas-là, il faut de la politique budgétaire, que les déficits budgétaires. Alors, ce terme-là, vous avez soigneusement évité, c'était devenu un mot saigne. Est-ce que vous ne pensez pas que, après tout, les déficits budgétaires, ça peut être une solution?
Oui, je pense que c'était la conclusion la plus communément acceptée, que par défaut, la politique monétaire étant puissante, on a le recours à la politique budgétaire. Et je ne suis pas du tout contre, j'en ai pas parlé, mais et mon modèle n'est pas mon modèle pour en parler, parce qu'il n'est pas pour quelqu'un. Mais peut-être qu'on est allé un peu trop vite en décidant que on ne peut plus rien faire avec la politique budgétaire. La politique budgétaire, le stimulus budgétaire, je pense que c'est une bonne mesure d'accompagnement vers un nouvel équilibre soutenable. Un danger possible, c'est qu'elle empêche les ajustements qui sont nécessaires pour aller vers cette nouvelle soutenable qui implique en fait des changements de taux de change, donc des choses essentiellement plus monétaires. Donc si on peut soutenir la demande aux États-Unis, en Chine, de faire pendant 2-3 ans et en anglais, le stimulus, qui se vend en France vers le déséquilibre avec plus d'épargne aux États-Unis ou en Chine. Très bien. Il y a aussi le risque que nous devons favoriser cet ajustement si nous budgétaire, pas se penser, en fait, en plus s'en dispenser. Et 3 ans plus tard, ça sera très difficile. Tout ceci étant dit, non pas sur la base de mon modèle.
Oui.
J'aurais deux questions.
Un peu plus fort.
J'aurais deux questions. Si on reste dans le cadre de ce modèle de l'économie en économie inverse, qu'est-ce qui nous apprend dans le cas inverse ? C'est-à-dire celui où on a un choc inflationniste. En réfléchissant à la question de coopération monétaire. En France, peut-être qu'il s'est produit en 2006-2007, mais on a laissé échapper l'inflation. La deuxième question, c'est, à bien regarder, on a l'impression que la bonne réponse en termes de règles monétaires serait d'avoir une cible de niveau de prix. Parce que dans ce cas-là, il y a presque un ajustement automatique. La Banque centrale cherche l'inflation quand le niveau de prix est vraiment dans sa cible. Est-ce que c'est une réponse possible idem? Si on accepte une baisse, on ne peut pas descendre en dessous de zéro, parce qu'en France, c'est possible de descendre en dessous de zéro. Parce que voilà, pour l'instant, ça.
Alors, oui, on peut prendre une cible de niveau de temps qui impliquerait que pour l'inflation, elle est plus faible que ce qu'elle devrait être, elle devrait être plus élevée, enfin, plus faible que la moyenne. Non, elle devrait être plus élevée que la moyenne plus tard. Aussi formuler un peu différent que l'inflation moyenne. Si la cible, c'est pas l'inflation dans 2 ans, c'est l'inflation moyenne dans 10 ans. Si l'inflation, c'est la même chose, si ce soit la même. Ça ne me semble pas foncièrement différent, enfin, c'est pas foncièrement différent que de dire j'augmente la cible de 3 années à venir, 4%, parce que l'inflation a été à 0,5%.
Ça sert pas quand même de cohérence temporelle pour la fiabilité.
Bah, disons que en temps normal, il me semble que c'est une solution, une proposition qui a un avantage dans la situation actuelle où l'inflation est trop basse et on risque d'être en train. Est-ce que dans le long terme, en temps normal, on peut remplacer une cible d'inflation par une cible de ça, le régime normal. On peut y faire un coup, mais si vraiment ce dont on a besoin, c'est de changer le régime en temps normal et ça peut faire quelque chose qui peut sortir de la liquidité, on peut prendre le cycle de prix, on peut annoncer une cible d'inflation plus élevée. Je ne sais pas si différentes présentations. Une distinction entre une mesure qu'on fait à un instant précis pour éviter une anticipation d'un cycle d'inflationniste, d'une part, et d'autre part, le régime ou une objectif de l'inflation normal.
Oui. Pourquoi on se borne sur 2% et pourquoi on ne va pas passer au 100%?
sorry, we can go through, right?
Si je peux me permettre, je vais poursuivre cette question. Au moment de la crise japonaise, le modèle d'ultra-paliquidité, au moins national, était évidemment dans tous les esprits. Il était connu et tout le monde avait ça en tête. Et donc, il y a eu beaucoup de préconisations vis-à-vis des Japonais, soit de façon nationale, soit de façon internationale. Il faut que vous augmentiez les anticipations d'inflation de 4 ou 5 %. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'il y avait une réticence de la gauche, ou conservatisme des banquiers centraux, je ne sais quoi, qui a fait qu'ils n'ont pas voulu, ou est-ce que, tout simplement, ils ne savaient pas faire et qu'ils avaient, dans leur boîte à outils, ils n'avaient pas d'instrument, c'est la même question, pour accélérer les anticipations de l'inflation. Deuxièmement, question subsidiaire, on a quand même l'impression au Japon que dans ce processus long et douloureux qui leur a permis finalement de sortir de la trappe à liquidité, il y a eu des mesures structurelles d'une nature complètement différente, du type assainissement du secteur financier, qui ont joué un certain rôle et qui peut-être n'étaient pas évitables, même si on avait réussi à accélérer l'inflation à 4%.
Si un banquier central le faisait tout seul, ça pourrait poser un problème, parce que si c'est crédible et que la monnaie de ce pays se déprécie, on dirait, ce pays fait de l'inflation, de la dépréciation de la victime, ce n'est pas un gouvernement de la communauté internationale. Donc c'est là que l'élément de coordination internationale. Tous les banquiers centraux pourraient se réunir et dire voilà notre stratégie de sortie et nous sommes d'accord pour dire que on commencera à compléter l'inflation en est à 4 ou 5%. Voilà. Ça c'est très bien. Donc le Japon, en particulier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Il nous reste à remercier en votre nom Olivier et Jeanne et à vous donner rendez-vous au cocktail, donc c'est à droite en sortant de ce bâtiment.